pieds nus dans la mousse. Platon entra par la chatière de l'arrière-cuisine. La maison dormait encore. Une souris était piégée dans une tapette au coin de la pièce, une gouttelette de sang séchée sous le nez. Elle n'avait pas eu le temps d'attraper le morceau de fromage. Il se dit qu'au moins, pour cruel que fût le procédé, elle avait rendu l'âme sur une note d'espoir. Aucune autre n'avait osé chaparder le gruyère, malgré le mécanisme devenu inoffensif après s'être abattu sur la nuque de la pauvre victime. Encore une qui lui avait échappé, non par négligence. Il ne pouvait caler que quelques courts épisodes de chasse dans son emploi du temps chargé. Platon parcourait parfois plusieurs kilomètres par jour quand il était question de suivre les habitants dans leur pérégrination. Les autres chats de campagne se la coulaient douce, en comparaison. Il ne pouvait donc être aux souris et aux humains. Choisir, c'est renoncer. La tapette compensait. Il mangea le morceau de fromage, puis s'installa sur son coussin, en attendant les premiers arrivants. Gaël et Gauvin se suivirent de peu, déjà alertes malgré un visage encore chiffonné. Édouard leur succéda, posa son téléphone dans le petit casier à peine la porte franchie. Le matin était calme, presque silencieux. Échange minimal pour laisser à chacun le loisir d'entrer dans la journée à son rythme. Trois nuits, déjà. Quand Suzanne apparut dans l'encadrement de la porte, Platon se redressa pour l'observer dans ses moindres gestes. Lui revint dans une précision d'orfèvre chaque détail de la scène à laquelle il avait assisté la veille. Elle avait pensé à vérifier qu'aucun humain ne puisse l'apercevoir. Elle avait oublié Platon, couché dans la paille à l'étage de la grange en rénovation. Quand il l'avait vu emprunter l'escalier, il s'était précipité pour monter les marches à son tour et avait pu l'observer par la porte entrouverte, fouiller dans les papiers d'Édouard, ouvrir une lettre, la lire, la replier. Il avait sauté in extremis sur une poutre de la charpente du toit qui surplombait le bâtiment avant qu'elle ne ressorte et l'avait scrutée lorsqu'elle redescendait les marches de son air de vieillarde innocente. Avant de s'installer à la table du petit déjeuner, elle s'approcha de lui pour lui délivrer sa petite caresse matinale. Platon attendit que la main fripée se trouve au-dessus de lui pour la griffer avec force avant de disparaître par la porte entrebâillée. « Oh !» s'écria Suzanne. « Pourquoi faire cela à moi ?» Édouard regarda Gaël soigner les trois sillons parallèles et sanguinolents de l'anglaise en songeant avec tristesse à ce jour où un chat s'en était pris à lui sans raison quand il avait 9 ans dans la cour de l'école. Lui revint également la blessure de cœur qu'on lui infligea ce même jour. Puis l'autre, presque 10 ans plus tard. Cette lettre, qu'il lisait et relisait depuis plus de 2 semaines, était le baume sur son entaille à lui, autrement plus profonde qu'un coup de griffe sur la peau. Et s'il était temps de cicatriser? Le chemin doux l'attendait. Il eut soudain envie de croire Gaël. Arrivé à l'entrée du passage, Édouard fut saisi par l'atmosphère particulière qui y régnait. Quelques toiles d'araignées que la rosée soulignait de blanc se détachaient du fond vert de la mousse, et de rares rayons fins d'un soleil encore levant transperçaient le feuillage de cette fin d'été. Un lieu sombre et solennel. Il retroussa son pantalon et ôta ses chaussures. Au bout du tunnel, un petit halo plus clair annonçait la deuxième clairière. L'image de ce qu'on décrivait de la mort, de ce qu'était la naissance, la lumière après le passage obscur. Était-il venu chercher cette lumière après 30 ans d'obscurité? Il prit une grande inspiration et commença à marcher. Le froid de la rosée anesthésiait la peau fine de sa voûte plantaire, tandis que la mousse veloutée réveillait d'autres perceptions. Une vague de douceur l'envahit. Il s'immobilisa, désarçonné par cette sensation profonde. Il dut remonter très loin dans ses souvenirs, et il savait lesquels, pour retrouver semblable émotion. Il ferma les yeux pour mieux l'apprécier et regretta de ne pas avoir pris la lettre avec lui. Il y pensait si fort. Les mots alignés d'une écriture ronde, la joliesse des quelques phrases, la joliesse surtout du souvenir de celle qui avait signé. tout souriait en lui. Ses pieds, ses mollets, ses genoux, ses cuisses, son sexe, son ventre, ses épaules et ses lèvres. Même ses cheveux souriaient. Gaël suivait un sentier parallèle en surplomb du doux chemin. Elle se cachait, tantôt derrière un tronc, tantôt à l'abri d'un rocher pour observer ses réactions. Elle savait que ceux qui tentaient l'aventure n'avaient que faire de leur environnement. Elle ne risquait rien. Ce visiteur inattendu, plutôt taciturne et sombre depuis son arrivée, semblait réagir à la mousse. Il prenait le temps, s'arrêtait, souriait. Gaëlle s'amusait de le voir parfois tordre son corps sous l'effet d'une probable brindille sous le pied. Elle qui marchait pieds nus une bonne partie de l'été n'y était plus sensible. Elle était heureuse qu'il ait suivi ses conseils. Il lui avait semblé si torturé en arrivant. Voir souffrir les autres lui était pénible, et elle cherchait toujours à redonner des couleurs au cœur en peine. Elle savait à quel point la nature pouvait apaiser les organismes et les pensées. Le mécanisme se confirmait sous ses yeux. La clairière qu'il était sur le point d'atteindre était plus sauvage. Elle la connaissait par cœur. De ci, de là, de petits arbustes semblaient prendre l'ascendant sur la prairie et l'herbe était haute. Un arbre immense se dressait au fond, à l'opposé du chemin. Un tilleul majestueux d'une circonférence de plusieurs mètres et de forme insolite que Gaël avait aimé dès sa première rencontre. Un tronc unique montait jusqu'à environ 2 mètres du sol avant de se séparer en 2 énormes branches jumelles qui partaient à l'opposé l'une de l'autre, formant un arbre siamois doté d'une surface plane en son centre. Chaque côté avait ensuite développé un réseau immense de branches épaisses et tortueuses. La mousse, qui le couvrait, lui conférait d'emblée une image de douceur, malgré les anfractuosités de l'écorce. Soucieuse de le laisser découvrir cet arbre en toute intimité, elle rebroussa chemin et s'amusa, sur le sentier du retour, de croiser au loin un autre visiteur qui se dirigeait vers la clairière. Édouard s'avança vers le tilleul majestueux, troublé par la présence à son pied d'un lierre et d'un chèvrefeuille. Si les deux lianes avaient poussé chacune de leur côté, elles se rejoignaient et s'entrelaçaient un peu plus haut dans les branches. Les dernières fleurs de chèvrefeuille encore présentes en cette fin d'été venaient colorer l'étendue vert foncé du lierre. Bien que n'ayant jamais été féru de littérature classique, il se souvint cependant de Tristan et Iseut, étudié au lycée, et de cette puissante histoire d'amour. La forêt des symboles. Éprouvant le besoin de le toucher, il s'approcha du tilleul. Une sorte de fluide invisible l'envahit, l'aidant à apprivoiser le vertige du vide. « Ne te sens pas coupable. On a parfois besoin de se retrouver seul pour faire le point. Tu as aimé ta femme. » Peut-être pas aussi fort qu'il est possible d'aimer, mais tu l'as aimé. Et puis tu l'aimes moins, différemment. Tu as de l'affection, une simple affection, même le désir s'en est allé. Alors pourquoi tu restes? Par confort, par habitude, la peur de décevoir, ou celle plus insidieuse de faire mal? Tu réfléchis beaucoup. Alors que tu as déjà toutes les réponses, cherche bien, cherche en toi, tu sais. Pieds nus dans l'herbe mouillée, il pensait à Élise. Tout sonnait juste au fond de lui. Oui, tout sonnait juste. Il ouvrit les yeux comme on s'éveille en sursaut. En levant la tête vers les branches hautes, il aperçut le chat, allongé sur l'espace plan entre les deux branches maîtresses. Il ne l'avait pas entendu arriver, ni même grimper dans l'arbre. Ce côté furtif, imprévisible, le dérangeait. Le félin reposait là et le regardait avec l'insolente certitude de se sentir à sa place. Il enfila ses baskets sur des pieds mouillés et se précipita vers un chemin qui partait en direction du nord. Il espérait rejoindre le hameau en bifurquant au premier carrefour, reprendre le chemin de mousse ainsi habité par cette urgence de retourner à la civilisation lui aurait donné l'impression de le gâcher, de le trahir, de piétiner le sacré. Il se sentait mal. Il avait peur. De lui, de l'avenir, de tout. Un cri restait bloqué dans la gorge. Il y demeurerait. On lui avait trop appris à se taire, à se contrôler. Alors il entreprit de courir jusqu'aux maisons le plus vite possible. Courir pour crier autrement. Courir pour cesser de penser. Courir pour échapper à son destin. Courir pour qu'il ne le rattrape pas.